Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 406 du podcast Jeune Actuel Amaté. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés cette semaine pour parler des finales de conférence NFL 2020-2021, il y a Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Grégory Richard est également là, bonjour Grégory.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Il y a marqué quoi sur ce sweat vert? On dirait qu'il y a marqué Dublin, non?
Tout à fait, oui, c'était pour le Penn State UCF qui a été joué il y a quelques années.
T'étais allé en Irlande ?
Tout à fait.
Oh, beau pays.
J'ai eu ce beau plaisir avec mon parapluie.
Bah oui, ah oui, bah oui, l'Irlande.
J'ai quand même été voir Bill O'Brien, c'est, ça vaut le coup d'être souligné.
Attends, il coachait Penn State.
Mm-hmm.
C'est vrai.
Mais ah, quoique, attends, est-ce qu'il est encore là-bas ? J'ai un doute. Bon, bref, c'est pas très important.
Bon, en tout cas, il est retourné dans les rangs universitaires, mais c'est une autre histoire. On connaît l'affiche du Super Bowl, messieurs, Chiefs, Buccaneers. Cela veut dire que les Bills et les Packers sont tombés. Ont-ils été trop timides ? Ce sera une des grandes questions de cette émission, messieurs. Et on débriefe justement ça tout de suite.
Playoffs ? Don't talk about playoffs ? You kidding me ? Playoffs ? I just hope we can win a game.
J'aime bien quand on bouge tous la tête comme ça en même temps pendant le jingle. J'ai l'impression qu'on est dans un studio de Dr. Dre au sous-sol dans un clip en 2002, tu sais. Packers 26, Buccaneers 31. 2 minutes 05 à jouer. 4e et goal, 8 yards de la end zone, 8 points de retard. Raphaël l'attente, évidemment. Grégory, toi, qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas compris la question, désolé.
Alors, 2 minutes et 5 secondes à jouer.
Ah, pardon, oui, c'est ça.
4e et goal. 8 yards de la end zone. Tu es les Packers. Tu as 8 points de retard.
Ah, tu commences directement par la fin.
Ah bah oui, je commence par ça. Tu la tentes.
Alors, j'avoue que des fois, je suis très mesuré. Là, j'ai regardé, j'ai fait quoi? Donc, non, j'ai pas compris. Je l'aurais tenté en effet, bien entendu.
Bon, Raphaël, je t'ai pas demandé parce que je sais que tu tentes.
Oui, bah, c'est oui. Vu le scénario du match, pour rappel, une défense de Green Bay qui jusque-là n'avait pas forcé, par exemple, du match, les Buccaneers, un fourth and out. Enfin, il reste 2 minutes. Bon, ça, voilà. Ça, on va développer plus tard, mais oui, alors, on va tenter.
Alors, ce que je comprends pas, dites-moi si j'ai tort. Si tu réussis, si tu la tentes et que tu réussis, t'as la conversion à 2 points pour égaliser. Si tu rates, tu dois la conversion à 2 points, tu dois faire un stop pour marquer un field goal. Si tu rates, si tu tentes la quatrième et que tu rates, tu as 8 points de retard, tu dois faire un stop pour récupérer le ballon et marquer un touchdown. Si tu mets le field goal, tu as 5 points de retard, tu dois faire un stop pour récupérer le ballon et marquer un touchdown. Donc en fait, je comprends pas l'intérêt de ne pas la jouer.
Bah, surtout que si tu la loupes, Tampa, ils sont quand même pas en super position pour repartir.
Bah, c'est ça.
Et ils ont pas un super momentum, ils étaient quand même sur une séquence offensivement où c'était un peu compliqué. On va sûrement développer un peu plus, mais avec un play call un petit peu particulier pour une équipe qui devait gérer. Donc c'est sûr que bon, même si la défense de Green Bay a pas été énorme sur ce match-là, il y avait quand même moyen de les mettre un peu plus en difficulté sur leurs 10 voire 5 yards, quoi.
Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a été la décision la plus polémique, celle dont on parle énormément. C'est le point culminant, mais est-ce que, Raphaël, on peut dire qu'ils perdent le match avant, finalement?
Oui, comme tu dis, effectivement, c'est peut-être le moment décisif, mais encore, comme tu l'évoques, il faut marquer le touchdown, puis la conversion à 2 points. Donc, de toute manière, même en y allant, le match n'était pas gagné. Et surtout, c'était pour juste revenir à égalité, hein, avec derrière encore un peu de temps potentiellement pour Tampa Bay pour faire la différence. Donc, ils perdent pas que le match là-dessus, comme tu dis, à mon sens, et on va développer, mais c'est une défaite avant tout collective, en fait, de Green Bay, puisque dans l'ensemble du match, à aucun moment du match, l'ensemble des escouades n'a été bonne au même moment. Et même quand je dis les escouades, le coaching, en fait. On a une première mi-temps où la défense de Green Bay est totalement à la ramasse et son coordinateur défensif est à la ramasse. En deuxième mi-temps, c'est l'attaque qui a un peu plus de mal dans le quatrième quart-temps, notamment avec ses 2 interceptions dont les Packers ne bénéficient pas pour changer le momentum du match en attaque. Et puis, tu as cette décision de mettre la fleur, de pas y aller en quatrième tentative. Donc, pour moi, c'est vraiment une défaite collective, en fait. Et c'est une défaite collective qui s'est dessinée tout le long du match en se mettant derrière rapidement et en courant, en ne faisant que courir après le score, en fait.
Oui, ils n'ont jamais mené hein, dans ce match. De toute façon, les Packers, ils ont toujours été derrière. Grégory, tu es d'accord sur le constat global? Ça s'est dessiné, en fait, c'était inéluctable au fur et à mesure du scénario de la rencontre.
Ouais, je rejoins globalement ce qu'a dit Raph. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y avait toujours cette idée pendant la semaine de préparation que enfin Green Bay, sous l'ère Aaron Rodgers, allait pouvoir jouer une finale de conférence à domicile, ce qui était jusque-là jamais arrivé. Et pourtant, paradoxalement, on a senti vraiment les Bucks rentrer pleinement dans ce match, être vraiment ambitieux dès leur premier drive offensif, alors que du côté de Green Bay, ça a ronronné, il n'y avait pas forcément tous les automatismes, avec forcément un jeu au sol qui a très bien été contenu par le run stop de Tampa d'emblée, et c'est sûr que ça a directement mis Green Bay dans le doute, et ça les a mis en effet dans un espèce de faux rythme, comme le disait Raph, tout le monde ne jouait pas forcément à l'unisson.
Est-ce que s'il faut situer une sorte de tournant, alors ça traîne sur la longueur, hein, mais en deuxième mi-temps, Tom Brady lance 3 interceptions de suite, 3 drives, 3 interceptions, je crois que c'est 3 interceptions en 7 passes, hein, quelque chose comme ça quand même. Les Packers s'en sortent avec un touchdown derrière la première interception qui leur permet de revenir à 5 points, et derrière, deuxième interception, ils sont à 5 points, punt, troisième interception, ils sont à 5 points, punt. Sur les deux séries, en fait, derrière les 2 dernières interceptions, ils sont à moins 6 yards, et tu peux pas faire ça dans une finale de conférence où tu joues Tom Brady.
Non, tu peux pas laisser des opportunités pareilles au moment où ta défense se réveille enfin, commence enfin à créer des turnovers. Forcément, tu peux pas laisser passer ça, comme tu le dis en plus, face à l'attaque de Tampa Bay et Tom Brady en particulier. Donc, je te rejoins, ça joue là-dessus, et c'est là où je trouve que c'est collectif, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là du match, sur ces 2 drives-là, on a l'impression que l'attaque de Green Bay décolle jamais vraiment. Il y a la ligne offensive qui est encore plus fragile à ce moment-là. Il y a le jeu au sol qui n'avance plus. Il y a un play call un peu douteux où il y a un de ces drives-là où on joue 3 fois de suite sur Aaron Jones de mémoire. Bon, c'est un peu étrange. T'as un drop, t'as une passe mal assurée. Bref, tout le monde se rate un peu à ce moment-là et tu sens que le momentum est, qu'ils avaient commencé à reprendre, tu sens qu'il est à nouveau en train de leur filer entre les mains. Donc, bon.
Je sais même pas en fait s'ils ont repris le momentum à un moment en fait, Grégory. Je trouve que c'est là en fait ils laissent échapper la chance qu'ils avaient de faire basculer le truc.
Ouais. Alors après c'est vrai qu'il y a cette stat un petit peu brute, c'est vrai qu'il est ressorti le fait que Tampa ait marqué 14 points sur les 2 turnovers qu'ils ont obtenus, alors que Green Bay en effet comme tu le dis sur les 3 turnovers ça n'a pas été suffisamment bonifié par des points. La grosse différence selon moi c'est aussi l'endroit à laquelle tu récupères l'endroit auquel tu récupères le ballon, et c'est vrai que l'avantage du jeu un peu risqué de Bruce Arians, c'est que bah, même quand ça passe pas, au moins ça leur permet de pouvoir contenir l'équipe dans sa moitié de terrain avec l'excellente défense qu'ils mettent en place, notamment depuis 15 jours. Là où Green Bay, malheureusement, c'est les pertes de balles qu'ils ont concédées, ça les a rapidement mis dedans. Et en effet, par rapport à ce que tu disais, ça a tout de suite redonné un momentum à Tampa Bay. Après, vu la situation qui était celle du moment, à savoir le fait justement d'avoir repris la main, d'avoir marqué un touchdown dès la première interception de Brady, on aurait dû s'attendre à mieux quand même de la part de cette attaque des Packers, sitôt les deux picks suivants arrivaient.
C'est vrai que c'est très beau de voir comme Tom Brady maintenant fait corps avec Bruce Arians et quand il n'y a plus de solution, il balance à 50 yards devant, il voit si quelqu'un prend.
La troisième, elle est vilaine hein, quand même. Il cible bien le cornerback. Ouais. Ouais, ouais, il est un peu loin, quand même.
C'est une sorte de punt nouvelle génération, quoi. Oui. Je veux dire, c'était. Bruce Arians va économiser un poste l'an prochain, plus de punter. Brady lance en profondeur et puis on remplace
Pignon,
le punt.
Attends, faut pas toucher à Pignon, tu rigoles.
Ouais. Mais ouais.
Non mais oui, c'est vrai que c'était assez rock'n'roll, on va dire là-dessus. Est-ce qu'il y a un mot à dire sur l'arbitrage ou pas? Je sais que c'est revenu, j'ai l'impression que ça revient en fait tout le temps quand on regarde les réseaux sociaux et qu'il y a une défaite, mais je le mentionne, il y a une interférence à la fin où il y a un tirage de maillot. Après, il y a beaucoup de trucs non sifflés des deux côtés tout au long du match.
Oui, il y a eu beaucoup de trucs non sifflés, des holdings notamment, potentiellement une interférence défensive avant l'interception sur Rodgers en première mi-temps, enfin juste avant la fin de la première mi-temps. Après, c'est toujours pareil, c'est pas parce que les arbitres soit ont été trop laxistes en début de match ou ont laissé passer des choses que tout d'un coup ils doivent ne pas
bien sûr
prendre la bonne décision en fin de match. Donc il y a un moment, moi je vois des gens sur internet dire. Ils ont pas un arbitrage harmonisé tout au long de la rencontre. Soit tu laisses tout passer, soit tu laisses rien passer. Bah pour moi non, c'est enfin il y a une faute. À un moment tu dois la siffler. Tu peux pas réfléchir comme ça. Donc moi je ferai pas de l'arbitrage un facteur décisif plus particulièrement dans ce match. Mais bon.
Et puis encore une fois, hein, Green Bay a été pénalisé 4 fois pour 30 yards. On a vu bien pire et bien beaucoup plus important. Il y a eu des delay of game pour Green Bay où la dernière seconde du chrono a duré 4 secondes. Hein,
On est d'accord.
Devant mon écran, je me disais c'est bizarre. Ils comptent bizarrement ces gens, hein, parce que ça. Là, il y a marqué 0 depuis quand même un moment en bas de l'écran et le mec, il a toujours pas envoyé le ballon. Hein, il y a un truc. Donc Greg, pour toi, c'est pas là-dessus que ça se joue non plus.
Non, franchement, moi encore une fois, je veux bien qu'on pointe du doigt, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pénalités sur ce match-là. Et alors, il y a deux actions qui m'avaient un petit peu interpellé. C'était le fumble d'Aaron Jones, mais on voit quand même qu'il tient le ballon quand même un certain temps malgré tout, qu'il fait un certain nombre de pas en tout cas avant le fumble provoqué par Whitehead. Et c'est vrai que l'interférence à vitesse réelle, ça peut paraître sévère. Je parle de la dernière en tout cas, de Kevin King. Mais voilà, le tirage de maillot, il y est. Après, oui, il y a forcément une action où on pourra dire ça siffle pas. À titre personnel, en étant extérieur, en étant pas spécialement impliqué en tant que fan, je suis pas non plus tombé de mon siège en disant oh là là, ils ont pas vu ça quoi.
Non. Pour rappeler quand même, c'est pas les arbitres qui oublient de couvrir la profondeur du terrain à 6 secondes de la mi-temps et qui laissent Scotty Miller s'échapper tout seul à 6 secondes de la mi-temps sans défenseur
profond. On parle déjà des erreurs de coaching.
Mais alors, non, mais il y a un moment, c'est bien beau d'attaquer l'arbitrage, mais quand tu laisses passer ce genre d'action en finale de conférence,
Et puis les 12 hommes sur le terrain à la fin, il y a plein de choses.
Non, mais les 12 hommes sur le terrain, c'est quand même arrivé deux fois. Moi, à un moment donné, je veux dire, ça peut arriver qu'on voit pas certaines choses, mais ça revient souvent à les questions qu'on nous pose sur mais c'est quoi concrètement le rôle d'un head coach? Bah, le rôle d'un head coach, c'est aussi de contrôler et de savoir compter s'il y a le bon nombre de joueurs sur le terrain au moment où il faut, quoi. Surtout quand t'arrives sur les quatrième ou quatrième quart-temps, en finale de conférence. Je trouve que ça fait sale quand même.
C'est pas le moment de devenir Jim Caldwell, en effet, normalement. Ouais. Est-ce que leur défense, justement, peut s'en vouloir? Raphaël pointait du doigt, justement, cet errement de fin de mi-temps. Alors oui, il y a les trois interceptions, mais en même temps, il n'y a pas une énorme pression sur Brady, qui prend qu'un seul sac. Il y a un 2 sur 2 dans la zone rouge, pourtant pas. Et puis, il y a cette énorme erreur en fin de première mi-temps, où ils n'empêchent pas un gros gain, alors que Tampa essayait de venir gratter. Je pense qu'ils auraient été contents de s'en sortir avec un field goal. Et ils ressortent avec un touchdown de Scotty Miller. La défense de Green Bay fait un bon match statistiquement avec les interceptions, mais avec quand même des gros problèmes aussi de l'autre côté.
Oui, non, c'est sûr que là en l'occurrence, cette action a pas lieu d'être très clairement. On a vu de toute façon que, alors, quand on connaît la stratégie de Tampa, Faire une défense comme ça où il y a constamment du homme à homme, c'est quand même un peu risqué. Et on a vu notamment un Kevin King qui a été en galère complète du début à la fin. Je ne sais pas si c'est spécifiquement lui qui est sur la couverture de Scotty Miller sur le dernier jeu, j'ai un doute. Je sais que c'est lui sur l'interférence, sur le touchdown de Mike Evans en début de rencontre, mais j'ai un doute sur celui-là. En attendant, ouais, ça a été assez compliqué et je vous rejoins. C'est vrai que sur une phase de jeu comme ça où il reste à peine 10 secondes à jouer, je comprends même pas que, comme sur une phase classique d'Ave Maria, on blinde pas derrière en se disant, alors oui, il y a le risque forcément éventuellement de prendre un field goal de dernière minute et ça aurait fait toujours 3 points de moins et tu te retrouves forcément avec une situation différente de celle qu'on a connue quand Matt LaFleur doit jouer une quatrième tentative en fin de rencontre.
Raphaël, cette défense?
Oui, non, ben, Greg l'a dit, hein, cette défense a mis beaucoup de temps à rentrer dans son match. Alors, il y a ces trois interceptions en fin de match, comme tu l'as dit, qui viennent un peu rehausser la prestation. Mais bon, c'est pareil, si on détaille, on décortique les trois interceptions, il y en a une, tu demandes si c'est pas plus un punt presque tapé par Tampa qu'autre chose. Donc non, la défense est passée complètement à côté de son match en étant en difficulté pour mettre la pression, en se faisant battre sur les couvertures aériennes. En dehors de Jaire Alexander qui fait son match, le reste a été quand même en grande difficulté. Donc ils le perdent en partie là-dessus, c'est certain.
Il leur manque la défense, il leur a manqué aussi un peu de jeu au sol parce que on l'avait loué contre les Rams, 36 courses, 36 passes. Là c'est 16 courses, 48 passes. Évidemment ils sont vite menés, mais 67 yards au sol, ils ont manqué. Alors, est-ce qu'ils ont leur a manqué quelque chose? Est-ce qu'ils ont été stoppés par un meilleur qu'eux? Est-ce que le scénario du match joue? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Mais au final, il a manqué cette touche-là de jeu au sol qui était très très forte et qui était un gros atout ces dernières semaines. Greg.
Oui, non, c'est sûr que là, en plus, c'est assez paradoxal parce qu'en plus, quand on regarde globalement les entrées respectives des différents coureurs, j'ai pas dans l'idée que ça a été spécialement catastrophique. Hein. Bon, il y a la prestation d'Aaron Jones, c'est assez décevante. Mais on a vu que les entrées de J.D. Dillon étaient quand même assez séduisantes. Jamal Williams a montré une certaine intensité sur les snaps où il était utilisé. Et c'est vrai qu'au final, oui, tu le disais aussi, peut-être parce que il y a un... Je sais pas comment dire ça, mais peut-être qu'il y avait on a senti en tout cas une ligne offensive, je trouve, un peu plus éprouvée. Parce que aussi extrêmement sollicité sur les quelques phases de passe pro, hein. Ça a clairement pas été le même scénario que contre les Rams. Et c'est vrai que dans le duel des tranchées face à une équipe de Tampa, notamment qui récupérait un Vita Vea plein centre, ça a été quand même très très compliqué de réussir à installer ce jeu tout en mouvement, cette capacité à vraiment être agressif. Et cette ligne, elle a souffert de bout en bout, mais pas uniquement pour Aaron Jones, hein. Je me rappelle d'une phase de jeu, enfin plusieurs phases de jeu où Aaron Rodgers est quasiment obligé de scrambler pour être sûr de pas être saqué par les pass rushers adverses, quand on sait que c'est pas non plus le quarterback le plus mobile. Donc c'est sûr que voilà, c'est un jeu au sol qui n'a pas performé comme on pouvait le connaître d'habitude, mais aussi je trouve en grande partie parce que la ligne offensive a été énormément mise en difficulté sur de nombreux secteurs de jeu.
Raphaël, toi qui as loué les qualités de Devin White, là la défense de Tampa en l'occurrence, elle a fait en effet du gros boulot face à cette ligne offensive de Green Bay.
Ah oui, bah la défense de Tampa effectivement qu'on voit en plus d'un meilleur niveau depuis les playoffs, hein, on peut le dire, fait un super match à l'image de Devin White, mais t'as aussi encore un gros match de Carlton Davis, donc. Et puis Jason Pierre-Paul, hein, sur la ligne défensive qui a fait le taf comme il l'avait. Non, même pas en fait, parce qu'il sort d'une bonne saison, j'allais dire, comme il l'avait plus forcément fait depuis très longtemps. Mais non, c'est une grosse prestation. Clairement, c'est le moteur et c'est sans doute là aussi que Tampa Bay gagne ce match. C'est sur cette capacité à casser cette attaque de Green Bay qui paraissait plus forte en tout cas toute la saison et à les empêcher d'avancer comme ils le souhaitaient, de développer leur jeu comme ils le souhaitaient. Donc c'est une bien belle défense que celle emmenée par le coordinateur Todd Bowles, il y a aucun doute là-dessus.
C'est vrai que on a parlé pas mal de Green Bay, on le dit en effet, la défense de Tampa est une des causes principales de la victoire. On a parlé de Tom Brady, des trois interceptions, j'aurais dû poser la question peut-être plus directement. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'ils ont fait un bon match offensif? Voilà, est-ce qu'ils ont fait un bon match offensif les Buccaneers?
Oui. Oui, je trouve quand même c'était intéressant. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, certains apparemment ont fait exprès de pas comprendre ce qu'on avait dit sur Brady, en disant que de toute façon c'était limite un malentendu le fait qu'il ait marqué cette touchdown. Là, c'est encore la défense qui a un grand rôle dans le match de Tampa, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant ce qu'on a vu de Brady. La semaine dernière, chez les Saints, ils avaient vraiment une grosse difficulté, je trouve, à installer leur jeu offensif. Et le début de match s'en est ressenti d'ailleurs. Là, tout a fonctionné tout de suite. Et c'est aussi ce qui a permis, en effet, à Tampa de se mettre dans le bon rythme. C'est que dès le premier drive, ils ont été extrêmement agressifs. Ils n'ont pas hésité à jouer sur le jeu profond, avec des petites passes en cloche notamment, qui ont posé énormément de problèmes à ce backfield défensif. Et avec en plus une ligne offensive qui, franchement, de bout en bout, je trouve, a été nickel. Voilà, c'est clairement une meilleure prestation que ce qu'on a vu la semaine dernière, notamment de la part de l'ancien quarterback des Patriots.
Raphaël, convaincu ?
Oui, dans une certaine mesure. L'attaque a été très efficace, comme l'a dit Greg, ce jeu avec pas mal de passes en cloche, tout ça. Même un Leonard Fournette assez intéressant sur ses drives, pas le premier, mais ensuite assez intéressant à ce niveau-là. Ils ont fait un très bon match. Je pense que les trois interceptions, on l'a déjà dit, mais sont pas toutes forcément à prendre très au sérieux, on va dire. Hein.
Pour moi, c'est plus une erreur de coaching.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, dans ce système-là, dans ce jeu-là, dans cette philosophie appelée par Bruce Arians avec autant de risques, il y a un moment, forcément, ça appelle des interceptions et ils l'assument. Et à quelque part, ils ont raison de l'assumer. Ils sont en finale avec cette philosophie-là. Donc maintenant, on sait très bien que Bruce Arians va mourir avec ça. Mourir ou survivre et gagner le Super Bowl avec cette philosophie-là. Je reste un peu sceptique sur le. Enfin, bon, je suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure chose à faire. Hein. À mon avis, un peu plus de jeu de passe, un peu plus mesuré en deuxième mi-temps aurait pas fait de mal à cette équipe, hein, plutôt que de forcer des grosses passes en profondeur.
Surtout que Chris Godwin faisait des différences dans le jeu intermédiaire, je trouve.
Bah oui, exactement. Donc bon, voilà. Après, bon, je crois qu'on refera plus Bruce Arians maintenant.
Petit instant quiz, messieurs. Tom Brady a joué 4 matchs de play-off où il a lancé 3 interceptions. Quel est son bilan dans ces matchs, selon vous ?
4 matchs, tu dis ?
Ouais, 4 matchs de play-off où il a lancé 3 interceptions dans sa carrière.
1-3.
Ouais, alors, 1-3 pour Greg.
J'aurais dit 2-2, mais...
Eh ben, c'est 3-1.
Ok.
Voilà, donc, de là à dire qu'il faudrait que Tampa lance 3 interceptions au Super Bowl, je ne sais pas. Ouais. Parce que là, on est typiquement dans une situation les hommes mentent pas les stats ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, je suis désolé, quand ils lancent 3 interceptions, ils sont quasiment imbattables. C'est du 75% de victoire. Donc, ouais. Donc voilà. Prenez ça, les stats avancées. donc Brady qui va jouer. J'ai pas donné ses stats. Il a 20 sur 36, 280 yards, 3 touchdowns, 3 interceptions. En tout cas, il a toujours le bras. Ça, c'est aussi quand même. La différence notamment avec Drew Brees, parce que je sais que le traitement de ces deux-là est toujours sujet à polémique, comme tu le disais, Grégory. La différence, c'est qu'en effet.
Et il jouait sans Antonio Brand, si tu me permets.
Il jouait sans Antonio Brand. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois jouer Brady, tu sais qu'il a le bras. Il y a des erreurs parce que je risquais, parce que voilà. Mais l'important, c'est qu'il ait le bras et qu'il puisse faire tous les lancers. Donc, c'est quand même le plus important là-dessus. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'autre quarterback qui était en face, Aaron Rodgers, 346 yards, 3 touchdowns, une interception. Une troisième tentative où il aurait peut-être pu y aller d'ailleurs en courant avant le field goal fatal qu'on a évoqué. C'est la quatrième fois qu'il perd en finale NFC. Quatrième finale, il en a joué 5, il a gagné la première, il a perdu les 4 suivantes. C'est une première, apparemment, un joueur qui perd 4 finales de conférence de suite. Est-ce que ça pose des questions sur sa capacité à finir, sur son niveau, son pédigré ? Je crois que Raphaël, tu te posais un peu des questions pendant le match, si je ne dis pas de bêtises.
Non, je sais pas si je me posais des questions. C'était même plus sur sa mentalité après match qui m'a un peu qui m'a un peu étonné, parce que je trouve qu'en sortie de match en sortie de défaite, une défaite comme ça balancée, je sais pas si je serai là, et jeter son coach sous le bus en disant c'est pas moi qui ai décidé de pas jouer la quatrième.
Alors si je me permets, j'ai vu la déclin en entier. Il dit je comprends la décision. Il dit c'était pas la mienne, mais je comprends la décision à ce moment-là.
Ouais,
du match.
Mais d'accord, mais parce qu'il veut pas aller à la confrontation directement, mais dire c'est pas ma décision.
Je fais l'avocat du diable.
Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Donc ça veut dire si on me donnait l'opportunité de choisir, moi j'y serais allé. Bref. Donc j'avoue que ça me pose un peu de questions sur la mentalité du bonhomme, sur. Pour faire écho, alors bien sûr c'est de la fiction, mais je suis pas certain qu'un Tom Brady aurait déclaré ça en sortie de match si Tampa Bay avait perdu. Je pense qu'on aurait plus su un Tom Brady qui aurait dit à l'année prochaine on va se venger, quoi, tu vois. Et voilà. Et je me demande si au poste de quarterback, s'il a vraiment toujours eu le comportement qui a pu tirer son équipe vers le haut. Voilà.
C'est beau ce que tu dis, Raphaël.
Non, mais sans parler du talent pur qui est, tu vois. Enfin, on va pas se mettre à questionner le talent pur du lanceur. Enfin, bien sûr que c'est un lanceur de talent, tout ça, mais je m'interroge.
Après, alors c'est le grand bal des interprétations est ouvert sur sa déclaration de fin de match, puisqu'il a dit donc en effet, il y a plein de joueurs au futur incertain, y compris moi. Moi, je l'avais pris comme retraite. Maintenant, je vois que une partie des médias américains s'emballent en mode ils voudraient jouer ailleurs. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il fallait comprendre.
Honnêtement, moi, je sais pas. Après, j'avoue, alors on pourra dire oui, peut-être que Brady, il aurait dit ça, machin. Bon, honnêtement, je sais pas. J'ai pas de mal à comprendre. Je rejoins totalement Raphaël sur la personnalité du quarterback. Je crois qu'on a discuté en interne sur le chat avec Alain. C'est vrai que moi-même, j'ai un petit peu de mal avec ce côté un peu diva. Mais bon, encore une fois, s'il a les prestations sur le terrain, pourquoi pas. Faut pas perdre de vue non plus qu'il y a peut-être un sentiment de frustration aussi quand t'as envie d'être là, quand t'as été en tout cas le moteur principal, parce que c'est ce qu'on pouvait lui reprocher l'année dernière de ne pas l'être, quand t'as été le moteur principal de cette attaque tout au long de la saison et que sur cette opportunité-là éventuellement de permettre à ton équipe d'égaliser en finale de conférence pour retourner au Super Bowl et que ton coach te dit bah non, je vais plutôt faire confiance au kicker et à ma défense plutôt qu'à toi. C'est sûr que voilà, mais c'est forcément décuplé de par le fait voilà, qu'Aaron Rodgers c'est une assez haute opinion de lui-même et en effet puisse derrière faire des déclarations qui en interne peuvent pas forcément bien passer. Je crois savoir qu'il a pas été tendre avec la défense aussi.
J'ai pas entendu celle-là, mais après, bon, après, on vient de dire que sa défense a pas été à la hauteur, que le jeu au sol non plus, et que le coaching non plus. Donc,
après, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est ça. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, il n'y a pas eu de jeu au sol. Il y a une ligne offensive, notamment sur le pass pro, qui a été débordée de toutes parts. C'est difficile d'incomber l'entière responsabilité à Aaron Rodgers.
Oui, c'est pas ce qu'on fait. On pourrait même ajouter que la franchise a peut-être, enfin la direction a peut-être pas été au niveau quand tu vois que sur cette intersaison, il y a qu'un seul joueur drafté par les Packers cette année qui a joué des snaps en intersaison. Sur les 7 joueurs qui draftent, il y en a qu'un seul qui prend des snaps lors des playoffs. Est-ce que de la part d'un effectif qui joue les premiers rôles en NFL, c'est quelque chose de normal de ne pas avoir de rookie prêt à monter sur le terrain quand tu vois à côté, par exemple, enfin quand tu vois de l'autre côté Tampa Bay qui a son lineman offensif dont le nom
Wirth,
voilà, tu vois, qui est sur le terrain. Winfield qui était blessé mais sinon qui aurait été aussi sur le terrain, enfin voilà.
Tyler Johnson qui fait un cas ici, Fanny Ryan, c'est qui a l'origine de l'interférence.
Donc tu vois, effectivement, je pense que c'est une défaite vraiment collective de A à Z de cette, mais dans tout l'ensemble de la franchise.
D'ailleurs, j'ai vu un beau papier, je crois que c'était ESPN, un beau papier américain qui disait que sur sa décision de ne pas jouer la quatrième tentative, Matt LaFleur, en fait, il avait sous-estimé deux grands quarterbacks à la fois. C'est-à-dire qu'il sous-estime la capacité d'Aaron Rodgers à aller chercher le match et il sous-estime la capacité de Tom Brady à le tuer derrière. Et c'est vrai que c'est pas faux. C'est assez poétique, je trouvais.
La question que je me pose, c'est juste, désolé, Greg, mais c'est quelle marge de manœuvre a Aaron Rodgers là-dessus pour dire à son coach, non, mais attends, stop, on y va, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Alors, on peut faire que de la fiction entre nous. Hein. Je pense qu'on n'a pas la réponse forcément, mais j'ai du mal à croire. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à croire qu'il peut pas avoir plus de poids que ça sur la décision de son coach, en fait.
Bah après, encore une fois, Matt LaFleur, il a l'air quand même d'être arrivé à Green Bay sans avoir trop peur de passer les portes, quoi. Parce que c'est un peu, il a l'air d'avoir une assez haute opinion de ce qu'il peut faire en termes de ligne offensive. Bon, il vient de l'arbre de Kyle Shanahan, donc voilà. Après, le dogmatisme fait le reste. Mais en tout cas, pour être un peu plus sérieux, on voit que son système offensif fonctionne. Après, moi, pour anticiper un petit peu, je serais fan des Packers. Je serais pas très rassuré à l'idée de voir ce que peut donner Matt LaFleur dans les prochaines années sur Aaron Rodgers, hein. Parce que il arrive à bien exploiter, enfin en tout cas le travail offensivement est parfaitement exploité par Aaron Rodgers et est sublimé entre guillemets par Aaron Rodgers. Mais je sais pas, encore une fois il y a des erreurs, il y a une gestion je trouve humaine qui moi me laisse un peu pantois. Après c'est un peu sévère, il est encore jeune, 2 ans à Green Bay, il fait 2 finales de conférence. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même des signes qui, moi, me rassurent pas à 100% quand je vois sa gestion globale de l'équipe.
Petit pronom pour finir sur ce match, Grégory. Tu as dit dans le futur sans Aaron Rodgers. Est-ce que l'année prochaine, c'est déjà le futur ou pas?
Non, je pense qu'il va revenir. Surtout sur une année où il risque d'être MVP. Je veux bien être un peu critique, sur Matt LaFleur, mais je pense qu'il n'est pas complètement stupide et qu'il faudra le garder en vue de la saison prochaine.
Bon, Raphaël, il n'y a pas le feu au lac. On revoit Aaron Rodgers et les Packers l'an prochain.
Oui, oui.
Bon, on ne s'en fait pas. Alors, petite pause et on débriefe le deuxième match.
Salut, c'est Laurent Dujon Les Tardifs en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs tenant du titre. Laurent Duvernay-Tardif qui ne participera pas au Super Bowl. On rappelle qu'il a pris la saison pour se consacrer à son métier de médecin. Mais les Chiefs seront quand même au Super Bowl. 38 pour les Chiefs, 24 pour les Bills. Même question que sur le premier match, mais avec une question subsidiaire. Est-ce que les Bills ont été trop timides en prenant deux field goals alors qu'ils étaient dans les 10 yards adverses? Et question subsidiaire, est-ce que ça aurait changé quelque chose de toute façon?
Je pense pas qu'ils ont été trop prudents, même si à un moment donné, forcément, l'accélération des Chiefs aurait pu leur laisser penser que s'ils mettaient pas un petit coup de collier supplémentaire, c'était fini. Mais bon, d'un autre côté, s'ils loupaient les quatrièmes tentatives, je pense que là, ça aurait été vraiment plus compliqué, encore plus vite. Donc non, je sais pas forcément. C'était quoi ta question subsidiaire, rappelle-moi.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ce match si ils avaient joué?
Voilà. Non, je pense pas. On a vu que sur la durée, c'était un peu compliqué, donc non.
Raphaël, tu les aurais joués évidemment.
Oui, oui, je pense qu'elles auraient joué. Pour moi, un field goal, tenter un field goal quand t'es en quatrième tentative dans les 10 yards adverses, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun. Mais bon, bref, de toute façon.
Alors, je rappelle les scénarios, je me permets. 21-9 sur la première, ils étaient aux 2 yards. C'est avant la mi-temps. Sur la deuxième, ils sont à 24-12 et sur les 8 yards adverses. Je repose la question à Grégory. Je me permets, Raphaël, avant de revenir vers toi. Est-ce que tu pourrais accepter ce que laissait entendre Sean McDermott après le match? Lui disait, si c'était à refaire, a priori, je prendrais encore le field goal sur la première avant la mi-temps. Par contre, après la mi-temps, je tenterai.
Alors, c'est juste que je me rappelle, il reste combien de temps au chrono quand ils sont sur les 2 yards?
Oh là, j'avais noté quasiment tout, mais là, si tu me demandes les chronos exacts.
Moi, j'ai pas le droit des questions subsidiaires et piégeuses, donc.
Tu me prends de court. Il reste 11 secondes.
Franchement, encore une fois, on voit, hein, j'ai pas la mentalité que Raphaël, hein, sans doute. Une des deux, ça peut se tenter. J'avoue qu'encore une fois, quand je l'ai vu pendant la rencontre, ça m'a pas choqué. Mais oui, encore une fois, j'ai rien contre le raisonnement. Et oui, en effet, il y a peut-être moyen éventuellement d'en prendre une des deux. Mm. Surtout peut-être celle où t'es à 24-12.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et où tu as actuellement la possibilité, parce que c'est vrai que derrière, en fait, ce qui est plus problématique, c'est quoi derrière? Tu les vois tenter des onside kicks et tout, mais quand ils sont à la limite 2 ou 3 scores d'écart, quoi.
Bah oui.
Donc, bon, c'est sûr que quitte à prendre plus de risques, autant les prendre plus tôt. Ouais.
Raphaël, mais c'est aussi ça un peu qui m'embête sur ce match de Sean McDermott, c'est que je trouve qu'il n'est pas forcément en cohérence avec le reste de la saison, dans le sens où, et même du début du match, où tu as une équipe des Bills qui, sur son premier drive, milieu de terrain, va tenter une 4 et 1 ou 4 et 2. Ça joue à la passe, on tente, on est là pour gagner parce que c'est les Chiefs. Il faut marquer dès qu'on en a l'opportunité. Et là, et malgré ce qu'ils ont fait toute cette saison, ils se retrouvent par deux fois dans les 10 yards adverses, presque même dans les 5 yards adverses. Mmh. Ils ont déjà beaucoup de retard. Ils se contentent de field goal en pensant que tu peux battre Kansas City en marquant des 3 points, alors qu'en plus, l'attaque de Kansas City était en train de mettre en déroute la défense des Bills sur chaque drive, parce qu'il y a quand même 5 touchdowns sur 6 passages en red zone. Donc, je vois pas à quel moment ils se sont dit, ça va suffire, encore 6 field goals et on va revenir à égalité, en fait. J'avoue que ça me laisse perplexe. Après, pour répondre à ta question subsidiaire de base, Alain, je pense que de toute manière, même en tentant ces touchdowns-là, ça ne changeait pas le match, parce que je pense qu'on a vu vraiment une équipe de Kansas City qui était au-dessus au-dessus des Bills, tout simplement.
Alors, les Chiefs étaient menés 9-0 après le premier quart. Derrière, touchdown, 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 21-9. Et derrière, ça a géré. Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce, inarrêtables. Hill, 9 réceptions, 172 yards. Kelce, 13 réceptions, 118 yards, 2 touchdowns. Est-ce que c'est moi où il n'y a pas vraiment eu de match, donc? C'est un peu le résumé de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là.
Ben alors, je serais, en tout cas, au début, je trouve que Buffalo défensivement a été assez appliqué et ils ont quand même pas mal freiné. Je trouve qu'il y avait deux dynamiques assez différentes d'un point de vue défensif. C'est-à-dire, on avait une équipe de Kansas City qui pouvait être amenée à concéder des gros gains, mais malgré tout à être assez efficace, notamment sur les troisièmes tentatives. Et de l'autre côté, on a Buffalo qui arrivait un minimum à freiner. Je crois que les deux premiers touchdowns qui sont inscrits par Kansas City, c'est 13 minutes sur les deux drives qui amènent au touchdown. Ce qui est quand même pas fréquent quand on sait que c'est une équipe qui peut être extrêmement explosive. Mais justement, les Chiefs l'ont joué un petit peu façon Brady aux Patriots. D'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de jeux intermédiaires, des petites passes sur le côté, tout en vitesse pour vraiment réussir à piéger cette équipe, notamment après la réception. Et cette équipe de Buffalo qui a tenté de plier sans rompre, bah au final, elle a rompu. Et c'est ce qui a permis derrière, en effet, à Kansas City de creuser l'écart petit à petit, de retrouver sa vitesse. Et là, en effet, pour compléter ce que disait Raph, vraiment mettre à mal cette défense des Bills qui a jamais réussi vraiment à trouver des solutions.
Raphaël, t'as été inquiet à un moment. Enfin, tu vois, même quand le Buffalo mène 9-0, est-ce qu'il y a danger? Est-ce que...
Non, je sais pas si j'étais inquiet. De toute façon, après toute cette saison, on va pas faire croire qu'on était particulièrement inquiet à ce moment-là. On sait que les Chiefs ont cette explosivité. 9 points en plus après un carton. Il reste quand même beaucoup de temps en NFL pour s'en sortir. Donc, non, pas particulièrement inquiet. Non.
Question à Grégory quand même. Bon, les Chiefs sont au Super Bowl. Ils ont marqué 38 points aux Bills. Est-ce que tu commences à y croire ou est-ce que tu as toujours des doutes sur cette équipe?
Alors, j'ai pas des doutes sur cette équipe.
Je le taquine.
Ils ont gagné 22-17 contre Cleveland au tour précédent, hein, donc encore une fois. Après, non, c'est on voit encore une fois que cette équipe-là, dès qu'il y a un peu de vitesse qui est mise en place, ça devient vraiment hyper problématique. Et encore une fois, tu citais tout à l'heure Duvernay Tardif qui est pas là depuis le début de la saison. Ils ont un match où il y a pas Sammy Watkins. Ils ont un match où ils récupèrent en plus Clyde Edwards-Helaire qui était pas là la semaine dernière. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de menaces quand même à devoir gérer. Et défensivement, c'est pas flashy, très clairement, mais on voit que Steve Spagnuolo, il n'a pas non plus gagné des Super Bowls avec les Giants par hasard. Enfin, en tout cas, un, parce qu'il était coordinateur du premier. Et que là, oui, on retrouve un petit peu les standards qu'on pouvait voir la saison passée avec une défense des Chiefs qui, sans être hyper bluffante, est capable de mettre la pression comme il faut, avec notamment un Frank Clark qui a été extrêmement précieux sur ce match-là, un Ladarius Sneed qui fait une très bonne campagne rookie et qui est capable d'être précieux sur la couverture, mais aussi sur des phases de blitz. Donc tout ça, mis bout à bout, en effet, voilà, ça continue de conserver une équipe extrêmement cohérente et difficile à battre dans de nombreux secteurs.
Est-ce que ça n'a pas été le fait du match, d'ailleurs, hein, cette défense de Kansas City, Raphaël?
Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est ce que j'allais dire. À quelque part, que Kansas City marque autant de points en attaque et joue comme ça, on l'avait déjà vu, on pouvait presque s'y attendre et on n'est pas tellement étonné in fine. Mais comme tu dis, c'est cette défense où elle avait un peu commencé à se rehausser son niveau en fin de saison régulière. Bon, début de play-off un peu timide, mais là, on a retrouvé vraiment les ingrédients de la défense de l'an dernier en play-off. Comme Greg le dit, elle prend des jeux, c'est une défense qui va prendre des yards, mais par contre, qui a les joueurs pour faire les big plays. Et je pense notamment, je trouve que ça se voit sur la ligne défensive avec Frank Clark et Chris Jones qui, tout d'un coup, au moment le plus important de la saison, se redeviennent ce qu'ils ont été l'an dernier en fin de campagne de play-off. Et voilà, ça fait la différence parce qu'ils ont blitzé une bonne partie de la soirée Josh Allen et il a été mis beaucoup en difficulté à ce niveau-là. Et c'est de bon augure pour cette défense de Kansas City avec un backfield défensif qui est peut-être un peu sous-estimé en plus, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de cornerback élite comme on peut le voir dans d'autres équipes. Il n'y a pas un Ramsey, il n'y a pas un Jaren Alexander. Mais les schémas de zone qu'ils proposent sont hyper cohérents et tout le monde arrive à tirer le meilleur. Et puis, tu as une paire de safety avec Tyrann Mathieu et Juan Thornhill qui est de très, très haut niveau et qui vraiment apporte ce qu'il faut en supplément à leur cornerback pour limiter les gros gains, pour limiter la casse. Donc moi, je pense que cette défense arrive à point nommé vraiment pile quand il fallait. Quoi. C'est...
5 sur 14 pour les Bills sur troisième tentative. Stephon Diggs a été limité à 12 yards à la mi-temps, 28 yards après 3 quarts-temps. Quasiment pas de jeu au sol pour Buffalo. 4 sacs qui rapportent 53 yards. Et Josh Allen sous pression sur 25% de ses tentatives. Ça résume un petit peu la performance. Greg, je te vois hausser les mains.
Bah oui, parce que malheureusement, c'est ça depuis le début de la saison. J'aime beaucoup Devin Singletary, mais à un moment donné, il me semble en avoir parlé la semaine dernière, ça devient vraiment trop rédhibitoire quand tu essayes de vraiment arriver à un certain niveau de compétition. Voilà, Josh Allen, il fait presque, je trouve, un match miraculeux sur ce match-là, parce que faut qu'il court, faut qu'il arrive à trouver des brèves dans cette défense de Kansas City avec une équipe qui est déjà, qui au fur et à mesure de la rencontre a été distancée. Je trouve que franchement, sur ce match-là, il s'en est plus que bien sorti avec un backfield offensif qui malheureusement a été le point noir constant des Bills cette saison, et ça me paraît compliqué de pas le considérer en vue de la saison prochaine pour vraiment rendre cette attaque inarrêtable de bout en bout.
Ah bah, Devin Singletary que t'as cité, c'est 6 courses pour 17 yards,
c'est des drops quand il sort du backfield, donc en plus ça aide pas quoi.
Et j'allais donner la comparaison, Josh Allen a couru 7 fois pour 88 yards et il est de loin le meilleur coureur de son équipe, donc il a fait ça. Et en effet, le déficit de jeu au sol, mais on l'a déjà dit avec les Packers, après ça a pas couru énormément des autres côtés non plus hein. Mais voilà, il y a 114 yards avec Mecole Hardman qui a une course à 50 yards, donc ouais. Pas non plus
voilà. Par contre, si je peux me permettre, je le disais, Josh Allen fait un bon match, mais va vraiment, vraiment falloir qu'il apprenne à se débarrasser du ballon.
Oui.
Parce que les grosses pertes de terrain sur les sacs provoquées par les Chiefs, c'est quand même quelque chose.
Mais il fait. Vas-y, Raphaël.
Non, puis même, il y a une autre, un moment où il relâche le ballon juste avant de sortir en touche très, très limite, qui aurait pu aussi faire perdre pas mal de terrain. Donc, ouais, là-dessus, il a un vrai. Le traumatisme de l'interception mauvaise, il fait qu'il veut garder la balle, et sauf que en termes de yards perdus, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour mettre en avant son équipe. Après, comme Greg, hein, je rejoins, il fait pas un mauvais match, il est pas aidé par quelques drops aussi également de la part de ses cibles. C'est quand même pour une première finale de conférence, c'est un match intéressant du jeune quarterback. Hein,
il a un peu peiné hein, sur à la mi-temps, il est à 12 sur 23 pour 104 yards, mais au moins il flingue pas son équipe non plus. Ça pourrait être bien pire pour une première finale.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pour concrétiser, parce que concrètement, à part il y a le touchdown de Dawson Knox, mais bon, c'est quasiment un touchdown qui est offert par les équipes spéciales, mais c'est vrai que il a eu beaucoup de mal quand même sur l'ensemble de la partie à concrétiser, mais encore une fois il peut pas tout faire tout seul non plus. C'est quand même un quarterback qui reste extrêmement jeune et dont on a vu une énorme marge de progression. Je pense que s'il y avait un joueur ayant le plus progressé cette année, il aurait été clairement dans les candidats, donc voilà, soyez encore patients.
On pourrait remplacer le comeback de l'année par ça d'ailleurs. Je dis ça. Petite soirée donc pour Stephon Diggs, Sean McDermott pas toujours inspiré, leur défense qui prend 439 yards, ça résume un peu, hein, il n'y avait pas de secret sur l'issue de ce match. Pour le petit mot d'adieu, comme on le fait avec toutes les équipes éliminées, c'est quoi l'axe de progrès principal pour cette équipe de Buffalo? Greg, t'as dit le jeu au sol, c'est vrai que ça semble être l'évidence.
Ouais, après, franchement, moi, c'est vrai que là, c'est pareil, je me mettais dans la peau d'un fan des Packers tout à l'heure. Franchement, si je suis dans la peau d'un fan des Bills, à l'issue de ce match-là, je me dis... Cette année, tu as réussi à être champion de division. Tu as Josh Allen qui a réussi à gagner en playoff et à donner une bonne copie globalement. Franchement, tu as réussi à développer une super attaque avec, a priori, il reste encore un poste à pourvoir d'être coach, mais a priori, ton coordinateur offensif qui va rester l'année prochaine. Donc franchement, il y a quand même beaucoup de choses dans une équipe qui reste assez jeune, qui continue de grandir ensemble. Il y a beaucoup de points positifs, je trouve, offensivement parlant. Il faut ajouter sur le backfield offensif et peut-être un petit peu sur la ligne. En défense, il faudra voir si Leslie Frazier reste, et il y a pas mal de joueurs, notamment dans le backfield défensif, qui seront agents libres. Mais franchement, il y a moyen de trouver une bonne ossature et avoir quelques petits ajouts, notamment par le biais de la draft, qui pourront éventuellement compléter cette équipe qui commence sérieusement à avoir de la gueule et être un prétendant crédible au Super Bowl dans la conférence américaine.
Raphaël, l'axe de progrès.
Oui, Greg a tout résumé. Il faut un peu d'ajout qualitatif. Moi, j'aurais dit l'intérieur de la ligne, peut-être, poste de garde et squad de linebacker aussi. Mais on est sur vraiment améliorer un petit peu l'effectif, parce qu'on a déjà quelque chose de très solide, donc et avec un choix très haut. Donc, a priori, tu vas peut-être pas tomber sur la pépite qu'il faut tout de suite, qui va tout changer. Mais bon, ça serait les deux principaux axes.
Pour les Chiefs, la seule mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Eric Fisher qui est touché au tendon d'Achille. Ils perdent donc leur tackle gauche juste avant le Super Bowl. C'est une déchirure du tendon d'Achille. Donc, on vous le dit, il n'y a pas de suspense. Il ne reviendra pas pour le Super Bowl. On ne sait même pas s'il sera là pour l'ouverture de la saison prochaine. Donc, c'est la mauvaise nouvelle. Ils avaient déjà perdu Mitchell Schwartz. Donc, ça bouge un peu dans tous les sens, hein, dans leur ligne.
Ouais, ils finissent quand même le match avec quatre remplaçants du coup titulaires sur leur ligne offensive. Hein. C'est,
Bon, après, Raphaël, tu es team la ligne offensive, on se débrouille. Donc, ça va, ça ne fait pas peur.
Ah, alors, on se débrouille d'autant plus quand on a Patrick Mahomes. Je t'avoue que j'aurais pas le même discours avec d'autres quarterbacks. Là, force est de. De toute façon, ils vont pas. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le choix de se débrouiller. Ils avaient de la chance en ayant peut-être pas un banc au niveau de la ligne offensive qui est pas le meilleur en termes de qualité forcément, mais qui est assez rempli avec un Wisniewski là qui rentre, qui est un joueur correct de NFL pour suppléer. Enfin, ils ont quelques remplaçants intéressants, donc ils vont jouer avec. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire qu'on le sait depuis le début de la saison que leur conquête du doublé passe de toute manière par la capacité de Mahomes, Hill et Kelsey à battre tous les autres. Et je pense que ça se jouera encore dessus.
Moi, je veux pas dire, mais je vais pas me mordre non plus sur la preview, mais si les Chiefs gagnent le Super Bowl, Raphaël, je comprends pas qu'ils se baladent pas encore avec un maillot rouge. Je pense que t'attends la victoire, mais cette équipe est en train de valider toutes tes théories. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la ligne, on s'en fout des coureurs, on passe sur tous les downs, on joue toutes les quatrièmes. Je comprends pas que t'aies pas encore un maillot soit un maillot de Mahomes, soit une moustache d'Andy Reid, tu sais.
Ouais. Je sais pas si c'est le modèle à prendre en termes de swag, mais.
Tu veux pas non, une petite chemise à fleurs et te laisser pousser le bide?
Moi, je vote pas pour. Hein.
On va attendre.
Bon, en tout cas, oui, on dirait que cette équipe a été construite par Raphaël au niveau de la philosophie et tout ça. Tout le reste, on en parlera dans la preview. À moins que Greg, tu veuilles t'exprimer sur les philosophies de coaching ou alors la moustache que tu veux te laisser pousser?
Non, moi c'est plus dur que pour Raph. Hein. Moi, je préviens tout de suite les auditeurs. Mais non. Après, le reste, c'est sur quoi? Sur les Chiefs en particulier?
Non. C'était juste s'il y avait un mot à ajouter. Sinon, on passe aux news.
Non, écoute.
Ça avait l'air d'aller la mobilité de Mahomes. Hein. Oui. L'orteil avait pas l'air si.
ça m'a moins interpellé que contre Cleveland, par exemple. Ouais.
Ils ont du bon scotch.
C'est ça.
On passe aux news.
Live from Studio 3C in Rockefeller Center. This is Today in New York.
On est obligé de parler un petit peu coach puisqu'il y a eu deux embauches pendant la semaine, donc on va dire un petit mot là-dessus. Et alors, en fait, j'avais pas réalisé parce que je l'avais pas mis au programme, mais la première embauche, elle est quand même liée à un autre dossier peut-être encore plus intéressant puisque tout se passe du côté de Détroit. Dan Campbell, assistant head coach et coach des Titans des Saints, embauché comme coach principal. Il était head coach intérimaire des Dolphins en 2015, 5 victoires, 7 défaites. Voilà, je vous avoue que j'avais un peu oublié. Et dans le même temps, Matthew Stafford qui serait disponible pour un échange puisque selon, je crois que c'était ESPN, les Lions et lui seraient tombés d'accord sur le fait qu'il pouvait avoir un nouveau départ et donc se barrer. Alors, est-ce que vous pensez que Matt Stafford... Alors,
c'est pas le même délire. Hein.
En fait, dans ma tête, j'avais déjà une longueur d'avance à dire est-ce qu'on élimine les Patriots parce que Matt Patricia est retourné dans le staff. Mais sinon, où est-ce que vous voyez aller Matt Stafford? Moi, j'en ai parlé dans le fauteuil. Évidemment, tous les yeux se tournent vers Indianapolis, qui semble être la destination idéale. Non, haute conférence, donc ça embête pas les Lions, même si on sait bien qu'ils vont pas vraiment aller challenger en playoff. Mais bon, haute conférence, équipe déjà prête, super ligne, sur le papier.
Oui. Je pense que si je suis Chris Ballard, oui, je tente ma chance tout de suite. J'avais une autre piste, hein, mais c'est vrai que les Colts, pour le coup, c'est.
C'est quoi l'autre piste? C'est quoi l'autre piste?
Alors, j'ai pas surveillé toute la gestion du cap, mais j'avoue que l'hypothèse Stafford à San Francisco me paraît assez excitante. Avec un jeu au sol déjà extrêmement bien rodé, ça peut donner une attaque quand même assez séduisante, mais encore faut-il gérer le. J'ai pas regardé exactement s'il pouvait. Dans une moindre mesure que t'es Garoppolo, donc je ne sais pas exactement les coups des franges qu'ils ont par rapport à ça, mais ça pourrait avoir de la gueule si ça peut se mettre en place.
Moi, j'ai peur qu'il soit étourdi et qu'il sache pas ce qui lui arrive s'il a des coureurs efficaces autour de lui. Il a jamais vu ça en 12 ans, tu vois.
Ah, Détroit, oui, c'est sûr que.
Tu sais, genre, il va laisser le ballon, le mec, il va partir avec le ballon, il va faire plus de 5 yards et il va faire, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. C'est pas comme ça qu'on joue.
Depuis Barry Sanders, ça n'a pas eu beaucoup, en effet.
C'est vrai. Raphaël, tu le verras aller où?
Un peu comme vous deux, hein. Je trouve qu'Indianapolis et potentiellement San Francisco me paraissent être les bonnes destinations. Je sais pas, comme toi, si Patricia est vraiment un repoussoir pour lui. Je sais pas quelle était vraiment la relation entre les deux pour le coup. J'ai pas de.
C'est vraiment une hypothèse.
De toute façon, Stafford, il va arriver à New England, il va faire bon, Patricia, il va jouer là-bas avec son crayon, et puis moi, je fais mon truc de mon côté. Hein. Normalement, il a pas à dire sans l'attaque. Patricia, hein.
Après, ouais, New England apparaît peut-être moins cool que d'autres par rapport aux cibles qu'il pourrait avoir. Même si à la free agency, New England a de quoi peut-être faire venir un mec ou deux. Ce qui peut changer la donne, hein. Si c'est un package, pourquoi pas après tout, mais bon, ça sera un peu mon top 3, quoi, si on devait aller.
Moi, j'aime bien aussi les Californiens, San Francisco, Rams, etc. Bon, on me les a beaucoup cités dans le fauteuil sur le chat, mais c'est vrai qu'il faut connaître les situations de salary cap, parce qu'ils ils peuvent se débarrasser du mec qui est en place, soit en le coupant, soit en l'échangeant. Si c'est échange, est-ce que tu vas trouver un mec qui va vouloir de Garoppolo ou de Goff dans un échange? Voilà. Mais ouais, Indianapolis, ça sent pas mal. Sur Campbell. Est-ce que vous avez un avis sur cette embauche de Dan Campbell, coach des Titans et assistant head coach? Bon, on le dit souvent, c'est difficile de se faire un avis quand on les a pas vus à l'œuvre.
Non, mais cette première conférence de presse m'a pas. J'ai trouvé qu'on était très dans l'ancien, quoi. On est là pour jouer les matchs sérieux, mettre du physique et de l'impact et.
Bah ouais.
Et voilà quoi. Hein. C'est comme ça
rugby,
qu'on gagne.
Dans le rugby, il aurait dit des couilles.
Ouais, tu sais.
J'ai pas vu la conf. Est-ce qu'il s'est tapé sur la poitrine à la fin des phrases?
Pas loin, clairement. Donc, je suis pas hyper. Je suis pas hyper optimiste, hein, pour le coup.
Bon. Greg, Dan Campbell.
Ouais, je sais pas trop. Après, il a un bon background, enfin, une bonne expérience malgré tout. Il est quand même passé dans les staffs de Parcells, de Peyton. Donc, voilà. Et je pense que si Miami lui avait donné sa chance à l'époque quand Joe Philbin a été viré, c'est pas totalement par hasard, alors qu'il n'était pas spécialement coordinateur à l'époque. C'est que malgré tout, je pense qu'en interne, il doit quand même avoir une certaine patte dans la gestion de ses joueurs qui est assez intéressante. L'ancien joueur NFL lui-même. Donc, faudra voir. En effet, c'est sûr que bon, ça faisait un peu cliché en conférence de presse. Mais faudra voir un petit peu. Je trouve qu'il s'est pas spécialement mal entouré. Anthony Lynn en coordinateur offensif. J'attends de voir. Il me semble qu'il n'a pas encore été en carrière, mais pourquoi pas. Et Aaron Glenn, coordinateur défensif, qui faisait d'excellentes choses chez les Saints, ça peut éventuellement être assez prometteur. Mais oui, ça soulève beaucoup de points d'interrogation, encore plus quand ton franchise quarterback annonce qu'il va quitter le navire.
Du côté des Eagles, on a trouvé son coach aussi. Il s'appelle Nick Sirianni. C'était le coordinateur offensif des Colts. Il a 39 ans. Du côté de Philadelphie, visiblement, il y a une tactique simple. C'est qu'ils ont dit, on peut pas récupérer Frank Reich. Donc, on va prendre tous ceux qui lui ont touché la main.
Cela dit, ça laisse quand même présager que Carson Wentz pourrait rester, du coup. Parce que, refaire venir comme ça, puisqu'il avait été coach des quarterbacks, non, des Eagles, Sirianni, un moment.
Je crois qu'il était aux Chargers dans Indianapolis.
Ouais, je confonds peut-être. Ouais. Non,
il va peut-être signer Jacoby Brissett.
Bon, je confonds, mais en tout cas, je sais pas, je me dis que ça plaide un peu pour garder Carson Wentz, quoi qu'il arrive.
Après, ça avait l'air d'être la volonté, si on avait bien compris, des dirigeants dans les entretiens d'embauche. Après, grosso modo, vu le prix qu'ils payent Carson Wentz, tu peux te dire qu'ils aient envie de réessayer le coup, non, Grégory?
Ah, je sais pas, il y a un quarterback de l'avenir derrière lui quand même. Donc, je sais pas. J'avoue que pour l'instant, Carson Wentz correspond selon moi un peu plus au système offensif que veut mettre en place Sirianni. Après, pourquoi pas, encore une fois, peut-être qu'on va continuer éventuellement de les mettre en concurrence l'année prochaine et que le meilleur jouera, mais c'est sûr que c'est pas spécialement de mauvaises choses. Après, en effet, il y en a un qui coûte beaucoup plus cher dans une année quand même assez capitale en vue du salary cap. Il y a eu beaucoup, je pense que la révision du salary cap peut faire pas mal de mal par rapport au Covid. Et ouais, les Eagles vont peut-être avoir besoin de dégraisser, mais en tout cas, sur le papier, oui, Sirianni peut être plus intéressé à l'idée de garder Wentz.
On rappelle, les Jaguars avaient embauché Urban Meyer, les Jets Robert Saleh, les Chargers Brandon Staley, les Falcons Arthur Smith. Les Texans sont désormais les seuls à ne pas avoir de coach au moment où nous enregistrons. Évidemment, c'était les premiers à avoir viré leur coach. Je dis pas de bêtises, c'est O'Brien le premier à sauter cette année.
Oui, tout à fait. Ouais,
c'est ça. Donc voilà, les Texans sont toujours en recherche. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est Eric Bieniemy et Leslie Frazier, les deux derniers, qui ont un nouvel entretien encore.
A priori, ce sera plus Leslie Frazier. Moi, de ce que j'ai vu. Hein, mais...
et de Sean Watson.
Yeniemi a pas l'air très chaud, bizarrement, pour quitter Mahomes et se retrouver à Houston sans Watson.
C'est dingue, hein. C'est dingue. Donc, en tout cas, oui, il reste le poste de Houston à pourvoir. On se demande bien pourquoi personne ne veut aller travailler avec Jack Easterby. Je vous invite à lire l'article sur le site que Victor a écrit, parce que Jack Easterby, c'est un personnage.
Là, je suis sûr qu'il prêche pour sa paroisse pourtant.
Exactement. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, il reste ce poste-là à prendre. Et tu disais, Deshaun Watson veut toujours se barrer. Donc, si tu mets en plus Matt Stafford et tout ça, ça va faire un marché des quarterbacks qui va être quand même très, très intéressant. On pourra avoir des émissions de free agency plutôt pas mal. Et puis, si en plus Rodgers pète un câble et qu'il demande à être transféré, alors là, je vous dis même pas le carnage.
Dans sa Californie natale, chez les 49ers. Oui,
chez les Niners. Alors après, c'est quand même l'équipe qui l'a snobé à la draft.
Bah oui, oui, quand même.
Donc, ah oui, c'est vrai.
S'il est aussi rancunier qu'on le dit, c'est pas sûr, quand même.
C'est vrai, je vais. Oui.
On passe au top et au flop. Les top et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer pour le top.
Le top, bon, bah, c'est un peu facile, hein, mais les Chiefs pour la démonstration que tout le monde attendait enfin cette saison, la victoire par plus de 7 points d'écart. Donc voilà, ça m'a fait plaisir qu'elle arrive à ce moment-là.
Je crois avoir entendu que Mahomes n'avait toujours pas perdu un match de plus d'une possession en carrière, alors que ça va déjà être son deuxième Super Bowl joué.
Bah, c'est possible. De toute manière, il a perdu qu'un match sur les 23 derniers, donc de toute manière, ça fait pas beaucoup à perdre.
Et il n'a perdu qu'un match en playoff, c'était contre les Patriots avec Tom Brady.
En prolongation, donc ouais.
C'est délirant hein, quand même. On vous a pas fait toutes les stats sur Mahomes, ce sera peut-être dans la preview, mais toutes les stats sur son début de carrière sont absolument délirantes. Il a que 25 ans, on le rappelle. Il va jouer son deuxième Super Bowl de suite. Il a déjà été MVP de la Ligue, MVP du Super Bowl. Enfin, la totale, c'est de la folie. Grégory, ton top.
Bah, c'est un peu facile, mais bon, Tom Brady, quoi. Première saison à Tampa, tranquille, fait au Super Bowl. Bon, alors avant, on disait c'est parce que la défense des Pats, c'est bonne. Là, c'est parce que la défense des Bucks, c'est bonne. Sauf que bon, à un moment donné, il faut aussi être clutch en playoff. Il y a un peu plus de déchets parce qu'il y a un jeu un peu plus risqué. Mais bon, en tout cas, voilà. Sur ce match-là, en plus, on l'a dit dès le début, il a été cinglant pour la défense des Packers et il a donné le bon rythme à son équipe pour se qualifier. Donc voilà, pari réussi pour les Bucks. Avec au passage première équipe à recevoir, on va dire, le Super Bowl. Mais en tout cas, pari gagné, je trouve déjà d'emblée pour une équipe qui était au fond du trou l'année dernière.
Tu m'étonnes. Enfin, moi, c'était Brady aussi. Le mec va jouer son 10e Super Bowl. C'est délirant quoi, de se dire qu'il en a déjà gagné 6. Il va en jouer un 10e avec une 2e équipe dès sa première année, comme tu l'as dit. Mais c'est pareil, on n'a pas fait la liste des records. On se gardera ça pour peut-être s'il le gagne.
Ouais, je pense qu'il y a quoi par les chiffres entre les deux là.
C'est délirant. Ouais. Brady, moi, c'est un peu auto-centré, mais moi je me faisais la réflexion en le regardant. Je me disais, la première fois que je l'ai vu jouer un Super Bowl, j'étais en première aile quoi.
Eh oui, il nous a accompagnés. Hein.
J'étais en première aile, j'étais chez mes parents et j'ai regardé le Super Bowl dans le salon.
Est-ce que Raphaël était né?
Oh, tout de suite.
Ça, c'est un truc de ouf. Tu te dis, ce mec-là a accompagné toute ma vie d'ado à adulte et j'ai 35 ans aujourd'hui. Quoi. Et le type est toujours là en train de jouer et jouer des Super Bowls. Quoi. Il a 43 piges. Rien que le fait d'être à 43 ans, parce que moi, pour en parler avec quelqu'un qui ne suivait pas beaucoup le foot US, j'ai essayé de lui expliquer en disant, bon alors tu vois déjà, normalement, jouer à 40 ans, personne ne le faisait. Alors, ça se faisait pas, c'est pas normal. Donc là, lui, il joue à 43 et en plus, il gagne, quoi. Et en plus, j'ai parié contre lui, tu vois, sur une iBet et je m'en suis voulu. Genre, j'ai vu le premier touchdown, j'ai fait, mais pourquoi j'ai parié sur les packs?
Ah ouais, t'avais parié contre lui?
Mais oui.
Par contre, autant dans l'émission, j'ai osé, autant argent, j'ai pas osé miser contre lui.
Écoute, j'ai misé, il y avait une bonne cote, c'était sur un combiné, j'avais fait un combiné de Chiefs Packers. J'ai perdu contre Tom Brady comme beaucoup de monde, c'est tout.
Ouais, par contre, ce qui va quand même être fou, c'est que vu la mode actuelle avec Brady qui continue et les coachs qui sont engagés de plus en plus jeunes, on va bientôt avoir Brady qui va y avoir des head coachs qui vont les faire. Tiens, t'as vu, t'as le même âge que mon fils.
Mais oui. Mais tu regarde, on en parlait, Mahomes pourrait être son fils. Il a 25 ans, 43.
Un peu jeune, mais une soirée sur le campus qui dérive.
Ça va, aux États-Unis, c'est bon, les gars, à 18 ans, ils ont 4 gosses, arrête.
Dans le Midwest, s'il venait du Midwest,
combien,
on se poserait même
combien
pas la
d'enfants
question.
Il avait à 18 ans, Philippe Rivers, déjà. Ou Cromarty, on va checker tout ça.
Cromarty, les connus ou les pas connus?
Ouais. Bah, et puis Rivers, je crois que Rivers est originaire d'Alabama, c'est un peu des traditions différentes aussi.
Ah non. Oh le dérapage.
Bon, non, parce que Brady est californien, il est sophistiqué. Si
oui.
Donc, il aurait attendu un petit peu. Je plaisante. Bah, il est Californie plus Boston, il a tous les clichés quand même du WASP américain. Donc, il aurait investi dans la tech avant pour être sûr que son fils ait un avenir. Le flop, Raphaël, en dehors de cette sortie lamentable.
Ah non, mais bon, écoute, hein, pareil, hein, on va finir la saison comme ce que j'ai martelé toute l'année, les quatrièmes tentatives non jouées par des coachs en manque de courage. Et je trouve que c'est encore plus flagrant quand du coup on a les deux matchs à la suite, les deux finales de conférence à la suite où t'as Matt LaFleur qui refuse de jouer ce field goal et qui derrière se plante et McDermott qui fait pareil et finit loin. Alors, même si on l'a dit, ça change sans doute pas le résultat final, mais. Et à l'inverse, t'as Bruce Arians qui tente et qui joue à fond, Andy Reid qui joue à fond et ils sont récompensés. Et c'est un peu facile d'en faire tout de suite un bilan comme ça, mais je pense que des fois, les coachs devraient un peu plus sortir de la logique de ne pas perdre pour celle de gagner. Voilà.
Grégory.
Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, les deux coachs les plus expérimentés ont pris le dessus sur les coachs les plus jeunes sur cette demi-finale, si je ne me trompe pas. Ouais. Mon flop, alors c'est un truc un peu alambiqué, mais parce qu'on pourra difficilement en sortir, mais si j'anticipe un peu sur la preview, mon flop, ça va être les poncifs qu'on va entendre sur Brady et Mahomes pendant 15 jours. Si Brady gagne, ça va être, regardez, ah, il a montré au genou qui c'est le quarterback. Si Mahomes gagne, c'est, ah, il a montré où était la maison de retraite à Brady. Donc bon, je sens que ça va être des réactions passionnantes, mais voilà, en tout cas, ça occultera pas le fait de que ces deux quarterbacks extrêmement talentueux se retrouvent de nouveau. La dernière fois que c'était croisé, ça avait donné un match assez palpitant, et je ne doute pas que ce sera de nouveau le cas lors de ce Super Bowl.
Merci à Grégory, en tout cas, pour la preview de la couverture qui vous attend sur Touchdown Actu pendant 2 semaines. Retrouver tous ces articles pendant les 2 semaines à venir.
Moi, je propose un article spécial poncif, si tu veux. Ah, il y aura le bingo et le bingo poncif.
Eh ben, écoute, si t'es chaud sur un bingo poncif, moi, il n'y a pas de problème.
Ah, très bien, je vais voir ça.
Pour le flop, moi, c'est juste, alors, je vais pas dire, c'était des matchs décevants ou quoi, mais c'est juste petite déception sur les Packers qui nous privent d'une fin de match vraiment mémorable. Tu vois, s'ils avaient joué cette quatrième et qu'en plus c'était passé, on s'embarquait dans un truc quand même très très prenant. Et puis finalement, ils ont même sur les interceptions, sur les deux interceptions où derrière ils capitalisent pas, ils manquent vraiment de relancer le match et de nous emballer dans un truc complètement fou en fin de match. Ah, voilà, j'aurais bien aimé une petite étincelle de plus dans un match qui avait bien commencé. Je sais que c'est notre camarade Raoul, je crois, qui à la fin du match disait qu'il était déçu, tout ça pour les 3 dernières minutes un petit peu. Ah, un peu petit. Ça fait pchit, comme aurait dit un de nos anciens présidents décédés. L'adversaire vainqueur d'Edouard Balladur à la présidentielle de 95. Disons que j'aurais préféré une fin à Bracadabrantesque. Voilà. Alors que là, ça a fait pchit. Voilà donc pour les flops. Grégory a quitté son siège. On peut vous le dire en visio, il est parti en courant.
L'émotion de la référence à Chirac, peut-être, je sais pas.
Ça doit être ça. Il est parti se recueillir. Non, Greg est de retour. Grégory est de retour. Livreur, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans les coulisses.
Ouais, non, j'ai une petite urgence domestique, mais rien de.
D'accord. Bon, on a eu peur que ce soit la mention cachée à Jacques Chirac qui était révolté. Et qui fait que tu aies quitté l'hémicycle. Bon, en tout cas, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 406 du podcast Jean Actu. On vous remercie, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Je crois que vous pouvez le faire sur Podcast Addict aussi. J'ai découvert ça sur Android. Vous pouvez laisser des évaluations. Pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, on remercie Ludovic, Loïc, Cyril, Tony Gonzalito, Clément, Julius avec 2 U. L'Elpec, Predrag Vlaovic et Napo 56. Merci à Grégory, merci à Raphaël.
C'est un plaisir.
Merci à vous.
Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @YellowRadioSa pour Grégory, je vais y arriver, c'est ma fatigue, @AlainMattei. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Merci encore, messieurs. On va prendre quelques jours de repos. Il y a l'émission Draft quand même cette semaine. Et puis, on se retrouve pour la preview du Super Bowl lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vodka.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.